إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Donc après avoir mentionné les trois premiers piliers de la prière, qui sont la station debout, puis le takbir de sacralisation, puis la lecture de surat al-Fatiha, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, il a dit rahimahullah ta'ala, وَالرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ. L'inclinaison et le fait de s'en relever. Le quatrième pilier de la prière, c'est donc l'inclinaison. Et le cinquième est le fait de se relever de l'inclinaison, c'est-à-dire de se remettre debout après s'être incliné. Et méditez ici sur le fait que l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a pas nommé cette position station debout, qiyam, contrairement à la position debout qui précède l'inclinaison. Le premier pilier de la prière, on a dit c'est Al-Qiyam, la station debout. Et le quatrième ici que l'on voit, c'est Ar-Raf'u min Ar-Ruku', le fait de se relever de l'inclinaison. Et cette position, elle est aussi appelée Al-I'tidal. Et ceci, c'est une cause de la divergence des savants concernant le fait de remettre sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine après l'inclinaison. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout dans la prière, il posait sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine. Mais quand on dit lorsqu'il était debout, lorsqu'il était qa'im, est-ce que ceci est général, c'est-à-dire aussi bien avant qu'après l'inclinaison, ou bien est-ce spécifique à la station debout qui précède l'inclinaison, la première, qui elle est appelée qiyam? Les deux sont probables, mais la probabilité la plus forte est que ceci est spécifique à la station debout qui précède l'inclinaison. Avant l'inclinaison, il n'y a pas de divergence quant au fait que cette position, elle s'appelle Al-Qiyam, la station debout. Et après l'inclinaison, il est possible que cela rentre dans la généralité du hadith, mais il est aussi possible que cela n'y entre pas. Et il se peut que ce soit cela qui est amené l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, à laisser aux prières le choix quant au fait de remettre ses mains sur sa poitrine après l'inclinaison ou de les laisser le long du corps. Et il n'a pas laissé ce choix quant à la position avant l'inclinaison, car le hadith, il stipule clairement la station debout, al-qiyam, mais après l'inclinaison, cela reste une possibilité. Mais nous n'en avons pas une preuve claire et explicite. C'est pour cela qu'il ne convient pas d'être strict au sujet de cette question. Ou pire encore, de taxer celui qui fait ceci ou cela d'innovation. Ceci est une erreur, même si cela a été prononcé par certains savants parmi les gens de science. Car de toute personne, comme on l'a dit, nous prenons et nous rejetons, à l'exception du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette question, c'est un exemple des questions au sujet desquelles la divergence est admise, la divergence est tolérée et ne doit en aucun cas être source de division entre les musulmans. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. La prosternation sur les sept membres, le fait de s'en relever et l'assise entre les deux prosternations. Le sixième pilier de la prière, c'est donc la prosternation, qui a lieu deux fois dans chaque unité de prière. Et la prosternation, elle doit être faite sur sept membres, comme il est venu dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a ordonné de me prosterner sur sept os, c'est-à-dire sur sept membres. Le front » Et il montra en même temps avec sa main son nez. Il indiqua également de se prosterner sur le nez. Les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds, c'est-à-dire le dessous des orteils. Il est donc obligatoire de se prosterner sur ses sept membres. Et le hadith, il est très clair sur ce point. Malgré ça, on voit une certaine négligence à ce sujet, particulièrement au sujet de deux membres. Premièrement, le nez. On voit nombre de prières. Lorsqu'ils se prosternent, ils ne posent que leur front sur le sol. Il y en a même certains qui lèvent tellement leur menton qu'on dirait qu'ils se prosternent sur la tête. Ils lèvent le nez. Son nez, il ne touche pas le sol. Ceci est une erreur qui peut invalider la prière. Il est obligatoire, lorsque tu te prosternes, que tu te prosternes sur ton front ainsi que sur ton nez, comme l'indique clairement le texte du hadith que l'on vient de mentionner. Le deuxième membre, au sujet duquel on observe une certaine négligence, ce sont les extrémités des pieds. On voit certains prières, ils posent sur le sol le dessus de leurs pieds, la face apparente de leurs pieds. Alors que ce qui est obligatoire, c'est de poser au sol le dessous des orteils, et non pas la face apparente. Et beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à cela, surtout lors de la deuxième prosternation. Après s'être assis, ils se prosternent et ils laissent ses pieds dans la position dans laquelle ils étaient lorsqu'il était assis. Ils ne les bougent pas. Et ceci est une erreur. Il est donc obligatoire de conseiller, avec sagesse bien sûr, ceux que l'on voit prier de cette manière et leur indiquer la manière correcte de se prosterner. Et le fait de les conseiller, cela ne veut pas dire que leur prière est forcément invalide, car ceci fait partie des questions subtiles qui sont ignorées par beaucoup de gens parmi les musulmans. L'autre erreur qui est faite en ce qui concerne les pieds lors de la prosternation, c'est que l'on voit certaines personnes lorsqu'ils prient, ils lèvent un de leurs pieds, ils posent un de ses pieds sur l'autre pied, ou d'autres erreurs qui nuisent à sa prière. Donc lorsque tu pries, tu dois veiller à bien te prosterner sur tes sept membres, comme cela est venu dans le hadith que l'on a mentionné. Le septième pilier, c'est donc de se relever de la prosternation, c'est-à-dire que tu te relèves et tu te mets en position assise. Et le huitième pilier, c'est donc cette assise qui consiste à s'asseoir entre les deux prosternations. Et il ne faut pas négliger cette assise. Et surtout, ne pas s'empresser de retourner en prosternation avant de s'être figé dans cette position assise, avec quiétude, en ayant accompli le dhikr prescrit à ce moment-là, comme nous le verrons lorsque nous lirons les obligations de la prière. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit « وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا » La preuve à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de l'inclinaison et la prosternation. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens rapprochés, « Ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous. » Ensuite, il a mentionné une autre preuve et il a dit, rahimahullah, « وَحَدِيثُ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمْ » Ainsi que le hadith, « On m'a ordonné de me prosterner sur cet os, comme on vient de le voir, sur sept membres, le front avec le nez, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des deux pieds, c'est-à-dire le dessous des orteils. » Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَالطُّمَانِينَ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ » La quiétude dans l'ensemble des actes et l'ordre dans les piliers. Le neuvième pilier de la prière, c'est donc la quiétude. Comme on a dit, il faut que la personne prie avec quiétude, sans s'empresser. Lorsque tu pries, tu dois te rappeler que tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe dans ta prière. Tu dois donc accomplir cette prière de la meilleure manière, en observant avec quiétude chacune des positions de la prière, chacun de ses piliers. Et il y a des gens qui ne prêtent pas attention à cela. Tu les vois prier à toute vitesse. Ils négligent leur prière. Ils picorent pendant la prosternation. Ils ne marquent aucun temps d'arrêt. Tu le vois s'empresser d'aller d'une position à une autre. Surtout entre les deux prosternations, comme on a dit. Il se relève de la première prosternation. Il s'assoit et directement repart vers la deuxième prosternation. Il prie sans aucune quiétude. Il est obligatoire, lorsque tu pries, de t'arrêter à chaque position de la prière, de marquer un temps d'arrêt. Également, lorsqu'il se relève de l'inclinaison. Il y en a, il dit « Sami'a Allahu liman hamida », il n'a même pas terminé de dire cette phrase qu'il est déjà en train de partir en prosternation. Il ne marque aucun temps d'arrêt. Il se relève de l'inclinaison et repart directement en prosternation. Et il néglige ainsi des piliers de sa prière. Celui qui prie de cette manière, sa prière, elle est invalide. car il n'a pas respecté ce pilier qui est la quiétude, at-tumanina, dans l'ensemble des actes de la prière. Sa prière, elle est donc invalide, et il n'en récolte que la fatigue, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il convient donc à celui qui voit une personne prier de cette manière de le conseiller, de lui rappeler que la quiétude est un pilier de la prière, et ce, afin qu'il améliore sa prière et que sa prière soit valide, qu'il l'accomplisse, une prière qui est valide et qui sera, incha'Allah ta'ala, acceptée d'Allah s'il l'accomplit avec sincérité et conformément à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne doit pas négliger ce pilier, car comme on a dit, la prière, elle ne peut être valide sans quiétude. Le dixième pilier, c'est donc l'ordre dans les piliers, c'est-à-dire de respecter l'ordre des piliers de la prière. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » « Priez comme vous m'avez vu prier ». Donc il accomplissait la prière dans cet ordre, il est donc obligatoire pour nous d'accomplir la prière de la même manière et dans le même ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait. Et c'est l'ordre que l'on vient de mentionner. La station debout, takbirat al-ihram, la récitation de la fatiha, l'inclinaison, se relever de l'inclinaison, la prosternation, l'assise entre les deux prosternations. Puis la deuxième prosternation, ensuite la personne se relève et refait la même chose pour les autres unités. Et on va voir le reste des piliers par la suite, incha'Allah ta'ala. Donc celui qui ne prie pas dans cet ordre, sa prière n'est pas valide. Il se dit, je vais d'abord me prosterner, puis ensuite m'incliner, ensuite faire la deuxième prosternation, ou dans un autre ordre. Celui qui prie ainsi, sa prière, elle n'est pas valide car il n'a pas respecté l'ordre dans les piliers. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, « Wa dalil » et la preuve. Donc, comme vous voyez à chaque fois, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans ses livres, il mentionne les preuves. Et ceci est important pour le musulman de s'habituer, lorsqu'il apprend une chose, à en connaître la preuve. Et ne pas apprendre en suivant aveuglément un savant, un auteur ou un enseignant. Mais il regarde la preuve qu'il a amenée, sur laquelle il s'est appuyé pour prononcer ses jugements. Donc il nous dit ici, rahimahullah, « Wa dalil » Hadith al-musi'i salatahu. La preuve est le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Et ce récit, il est connu. Cette personne, elle a été appelée celui qui a mal fait sa prière. Et ce car à cette époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne faisaient pas correctement leur prière, ils étaient très peu. C'est pour cela qu'il a été appelé ainsi. Mais à notre époque, ceux qui ne font pas correctement leur prière, ils sont très nombreux malheureusement. Et ce qui est plus triste encore, c'est que beaucoup d'entre nous voient des gens qui accomplissent mal leurs prières et malheureusement, beaucoup d'entre nous se taisent, que ce soit par peur, par complaisance ou par ignorance. Ou d'autres, ils pensent que rien ne leur incombe si ce n'est leur personne. Ils croient que lorsqu'il va à la mosquée, il doit juste faire sa prière et peu importe s'il voit des gens qui ne prient pas correctement, il ne se soucie que de sa personne. Et il a oublié une chose très importante qui fait partie des fondements de notre religion, qui est le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable, ainsi que le droit à la nasiha qu'ont l'ensemble des musulmans sur nous. Donc le fait de penser ainsi, c'est une erreur. Il est obligatoire pour celui qui a de la science, qui connaît la manière de prier correctement, de conseiller ceux qu'il voit qui accomplissent mal leur prière. Et en faisant ainsi, il obtiendra la récompense du conseil, mais également la récompense de chacune de ses prières que cette personne accomplira correctement par la suite. Il ne faut donc pas négliger ce point. Donc il mentionne ce hadith, il dit, rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Abu Huraira, il rapporte qu'ils étaient assis autour du prophète صلى الله عليه وسلم. Et ceci était l'habitude des compagnons رضي الله تعالى عنهم, de s'asseoir autour du prophète صلى الله عليه وسلم afin d'apprendre de lui la religion de l'islam. Il dit ensuite, إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Un homme est alors rentré, il a prié, puis il a adressé le salut au prophète صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a alors dit, repars et va prier car tu n'as pas prié. Il vient de prier, il adresse le salut au prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit, repars, va prier car tu n'as pas prié. Il a fait cela à trois reprises. À trois reprises, il est venu, il a prié. Il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Repars, va prier car tu n'as pas prié. » Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela et ne l'a pas informé directement de son erreur? Les gens de science ont mentionné que qu'il ne l'a pas informé de la première fois, car il se peut que la personne se soit empressée dans sa prière pour une raison particulière, comme le font nombre de personnes qui s'empressent dans leur prière. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous pardonner. Il l'a donc renvoyé prier. La personne a prié, a adressé le salut au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui avoir répondu à ses salutations, lui a dit « Repars, va prier, car tu n'as pas prié. » Et la troisième fois, l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيَّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي » Par celui qui t'a envoyé avec la vérité en tant que prophète, je ne sais pas faire autre que cela. Alors apprends-moi. On voit donc ici que cet homme, c'est lui qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner. Il va donc accorder une grande attention à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire. Et les gens de science ont dit que c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné cela trois fois. Afin d'être sûr qu'il ne savait pas et qu'il avait délaissé cela par ignorance. Et également afin d'attirer son attention et qu'il accepte et comprenne ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner. Ceci fait donc partie des sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas enseigné de la première fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ensuite « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَىٰ فَكَبِّرْ » Lorsque tu te lèves pour prier, fais le takbir, c'est-à-dire le takbir de sacralisation comme on a dit. Et il y a en cela dans ce hadith une preuve qu'il n'est pas légiféré de prononcer l'intention, mais que la première chose que la personne doit faire lorsqu'elle se lève pour prier, c'est de prononcer le takbir et de dire Allahu Akbar. Et en aucun cas l'intention ne doit être prononcée. Ensuite, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam « ثُمَّ قَرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » Puis, récite ce que tu peux du Coran. Et dans d'autres versions, puis récite la Fatiha. « ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعَا » Puis ensuite, incline-toi jusqu'à ce que tu te figes, jusqu'à ce que tu te stabilises en inclinaison. Et ceci est la partie du hadith qui est visée par l'auteur, rahimahullah ta'ala, en la mentionnant ici. Incline-toi jusqu'à ce que tu te figes en inclinaison. C'est-à-dire, ce n'est pas tu te baisses et tu te relèves directement, mais tu te figes en inclinaison. Et le temps minimum obligatoire que tu dois rester incliné, c'est le temps de tasbih. Subhana rabbi al-azim. C'est-à-dire que tu t'inclines, tu te figes en état d'inclinaison, tu prononces ce dhikr qui est obligatoire, comme on va le voir dans les obligations de la prière, une fois, ceci est le moment minimum. C'est-à-dire que tu dois le prononcer en étant figé, et non pas lorsque tu t'inclines. Il y en a, ils commencent à le prononcer, ils ne sont même pas encore stabilisés en état d'inclinaison. Ceci est une erreur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِي لَقَائِمَا » Puis ensuite, lève-toi jusqu'à ce que tu reviennes debout. « ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا » Puis ensuite, prosterne-toi jusqu'à ce que tu te figes en état de prosternation. « ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا » Puis lève-toi jusqu'à ce que tu te figes en étant assis, en position assise, c'est-à-dire entre les deux prosternations. Donc on voit dans ce hadith que la quiétude, le fait de marquer un temps d'arrêt dans chacune des positions de la prière, c'est un pilier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Ensuite, il lui a dit « ثُمَّ فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا » Puis fais cela dans toute ta prière. C'est-à-dire dans toute ta prière, marque ces temps d'arrêt dans chacune des positions. Ne t'empresse pas, prie avec quiétude. Ceci est donc le neuvième pilier de la prière. Il ne faut pas négliger ce pilier, car c'est un pilier très important qui malheureusement est négligé par beaucoup de personnes lorsqu'ils prient. Et dans ce hadith, il y a une preuve que celui qui ne priait pas correctement, il ne lui est pas obligatoire de rattraper les prières passées qu'il a mal accomplies. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à cet homme de ne refaire que cette prière. Quant aux prières passées qu'il a accomplies de cette manière, car on sait qu'il les a accomplies de cette manière, car il a dit « Je ne sais pas faire autre que cela, alors apprends-moi. » C'est-à-dire que ces prières passées, il les accomplissait ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas ordonné de rattraper ses prières passées. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَالتَّشَهُدُ الْأَخِيرُ رُكْنٌ مَفْرُوضٌ » Et le dernier tashahhud est un pilier obligatoire, un pilier qui est prescrit. Et voyez qu'il a dit ici, le dernier tashahhud. C'est-à-dire que si dans ta prière, il y a deux tashahhud, c'est seulement le dernier qui est un pilier. Et le premier, comme on le verra dans le prochain cours, c'est une obligation, mais ce n'est pas un pilier. Ensuite, il a mentionné les termes de ce tashahhud. Il a dit, rahimahullah, kama fil hadith, an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qal. Comme dans le hadith, d'après ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, kunna naqul, qabla an yufrada alayna tashahhud, as-salamu ala Allah min ibadihi, as-salamu ala Jibril wa Mika'il. Il dit radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, avant que le tashahhud ne soit prescrit, nous disions As-salamu ala Allah min ibadihi. Que la paix soit sur Allah de la part de ses serviteurs. Que la paix soit sur Jibril et Mika'il. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la taqulu as-salamu ala Allah min ibadihi fa inna Allah huwa as-salam. Ne dites pas as-salamu ala Allah min ibadihi. Ne dites pas que la paix soit sur Allah, car Allah, c'est lui as-salam. As-salam, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné ce qu'il devait dire. Walakin qulu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. As-salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ceci est donc une des formes de tashahhud qui est rapportée ici par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et le tashahhud, il peut être prononcé en d'autres termes. Et les différents tashahhud qui sont rapportés des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, vous pouvez notamment les retrouver dans le célèbre livre La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit par l'éminent savant, l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Donc ici l'auteur rahimahullah il nous a mentionné le tashahhud d'Ibn Mas'ud qui dit At-tahiyatu lillah, les salutations sont pour Allah, was-salawatu wat-tayyibat, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. On va voir l'explication des termes à travers les paroles de l'auteur rahimahullah. As-salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi ô prophète ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. On trouve dans une autre version du hadith: puis lorsqu'il est mort, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, nous disions As-salamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ceci est également une façon de faire le tashahhud. Au lieu de dire As-salamu alayka ayyuhan nabi, de dire As-salamu ala an-nabi. Que la paix soit sur le prophète. Cependant, il est venu d'après Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a enseigné le tashahhud en étant sur le minbar, d'après les termes que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a mentionné, c'est-à-dire As-salamu alayka ayyuhan nabi. Et certains parmi les gens de science ont dit que cette question est une question sur laquelle on fait preuve de souplesse. Celui qui dit As-salamu alayka ayyuhan nabi, il a en cela un salaf parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et celui qui dit As-salamu ala an-nabi, il a également un salaf parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, As-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Que la paix soit sur nous ainsi que sur les serviteurs d'Allah vertueux. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. On va donc revenir à l'explication que l'auteur rahimahullah ta'ala a donnée du tashahhud. Il dit rahimahullah wa ma'na at-tahiyyat jami'u at-ta'zimat lillahi ta'ala mulkan. Et le sens des salutations lorsque tu dis At-tahiyyatu lillah, c'est-à-dire que toutes les formes de glorification sont à Allah. Il les possède et elles lui reviennent de droit. Il en est digne, subhanahu wa ta'ala. Et les formes de glorification, qu'est-ce qu'elles sont? Il nous dit l'auteur, rahimahullah, مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به Rabbul Alamin, fahuwa lillah. Il dit comme le fait de se courber, s'incliner, se prosterner, et toutes les manières par lesquelles on glorifie le Seigneur de l'univers, elles sont à Allah. C'est lui qui les possède et c'est à lui qu'elles reviennent de droit. Il dit ensuite, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Et quiconque en voue une chose à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un polythéiste mécréant. Celui qui se prosterne pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Il a fait en cela du polythéisme majeur. Et il est sorti de l'islam par cet acte et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, il dit, rahimahullah, was-salawat. Donc lorsque tu dis, at-tahiyyatu lillah, was-salawat. Et les prières. Ma'naha, jami'u da'awat. Son sens, c'est l'ensemble des invocations. Donc ce qui est visé par les prières ici, c'est les invocations. Toutes les invocations, elles sont à Allah subhanahu wa ta'ala. On les adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila as-salawat al-khams. Et il a été dit également que lorsqu'on dit as-salawat dans le tashahhud, ce qui est visé, ce sont les cinq prières. Wa at-tayyibat lillah, il dit. Et les bonnes choses, at-tayyibat, elles sont à Allah. Allahu tayyib wa la yaqbalu min al-aqwal wa al-a'mal illa tayyibaha. Allah est tayyib, Allah est bon. Et il n'accepte parmi les paroles et les œuvres que ce qui est bon. Et quelles sont les bonnes œuvres? Et quelles sont les bonnes paroles? C'est celles qui sont sincères, vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tad'u linnabi sallallahu alayhi wa sallam. Bissalama wa rahma wa baraka. Lorsque tu dis assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tu invoques pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salut, la miséricorde et la bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala, il attire notre attention sur un point important et il dit walladhi yud'a lahu ma yud'a ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit celui en faveur de qui on invoque, il ne peut pas être invoqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit cela afin d'attirer l'attention de ceux qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les polythéistes qui s'affilient à l'islam et qui invoquent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le messager d'Allah, on invoque en sa faveur, on invoque pour qu'Allah lui accorde le salut, la miséricorde et les bénédictions. Il ne peut donc en aucun cas être invoqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui-même un serviteur. Il a besoin de la miséricorde et du salut, ainsi que des bénédictions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment pourrait-il être invoqué en dehors d'Allah? Il dit ensuite, rahimahullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Que le salut soit sur nous, ainsi que les serviteurs d'Allah vertueux. Tusallim ala nafsik wa ala kulli abdin salihin fi s-sama'i wal-ard. Tu invoques le salut pour toi-même, ainsi que pour tout serviteur vertueux dans les cieux et dans la terre. Ensuite, il dit, rahimahullah, wassalamu du'a'un. Et le salam, c'est une invocation. Wassalihun yud'a lahum, wa la yud'a'un ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Il dit, les vertueux, on invoque en leur faveur, et ils ne peuvent pas être invoqués avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est impossible que tu invoques en faveur d'une personne et que tu l'invoques avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il attire l'attention sur ce point important qui est un point lié à la croyance du tawhid. Car sans cela, celui qui ne voue pas le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, sa prière elle ne sera pas valide. Il ne lui servira à rien d'apprendre ses règles, ses piliers, ses conditions, ses obligations s'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et invoque les vertueux, invoque les morts, se frotte aux tombes, recherchant près de celles-ci la bénédiction. Invoque les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci, sa prière, elle ne lui sera d'aucune utilité. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il attire notre attention sur cela. Les vertueux dans ta prière, lorsque tu fais les tashahhud, tu invoques en leur faveur. Donc comment pourrait-il être invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, rahimahullah, ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tashhad shahadat al yaqin an la yu'bad fil ardi wa la fis sama'i bi haqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tu attestes d'une attestation que tu fais avec certitude que nul n'est adoré ni sur terre ni dans les cieux de droit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le sens de la shahada. Ensuite, il dit « Wa shahadatu anna muhammadan rasulullah annahu abdun la yu'bad wa rasulun la yukathab » Lorsque tu dis dans le tashahud « Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu » Tu attestes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être adoré. Et tu attestes également que c'est un messager. Il ne peut donc pas être démenti. Bal yuta' wa yuttaba', mais il doit être obéi et suivi. Celui qui dit ashhadu anna muhammadan rasulullah, il atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il ne peut donc pas le démentir. Car le fait de démentir, de traiter de mensonge le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceci est de la mécréance et de l'apostasie. Cependant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on doit le suivre. On lui doit obéissance, une obéissance absolue. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le Coran ? Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. C'est-à-dire que l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obéissance absolue. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, tu dois t'y soumettre en accomplissant ce qu'il a ordonné et en délaissant ce qu'il a interdit sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit rahimahullah, sharrafahu Allah bil 'ubudiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a honoré, c'est-à-dire il a honoré son messager sallallahu alayhi wa sallam par quoi? Par l'ubudiyyah, la servitude, le fait que c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala. Il mentionne la preuve de cela. Tabarakalladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Béni soit celui qui a fait descendre le livre de discernement, c'est-à-dire le Coran, sur qui? Sur son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant que c'est son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers, pour le monde entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné ainsi dans de nombreux versets, comme dans sourate Al-Isra, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, Subhana alladhi asra bi'abdihi. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Donc, la servitude, c'est une des plus immenses qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car il a concrétisé cette servitude en se soumettant pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il priait la nuit au point que ses pieds enflent et se fendit. Et lorsqu'il était interrogé sur cela, qu'est-ce qu'il disait? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il lui a accordé comme bienfait subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah, après avoir mentionné le tashahhud, il a mentionné la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit que le 11e pilier de la prière, c'est le tashahhud. Ensuite, le 12e, c'est al-julusula, le fait de s'asseoir pour faire le tashahhud. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. Et il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Le 13e pilier, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'auteur, rahimahullah, nous l'a mentionné. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, tu es certes digne de louange et de glorification. Ensuite, il nous explique le sens des termes de cette prière. Il dit as-salat min Allahi thana'uhu ala 'abdihi. Il dit la prière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle consiste à ce qu'il fasse les éloges de son serviteur auprès de ses anges rapprochés. Comme haka al-Bukhari fi sahihihi an Abi al-Aliya qal salatullahi thanahuhu ala 'abdihi fil mala'il a'la. Il dit, comme l'a mentionné al-Bukhari dans son authentique, c'est-à-dire son recueil de hadith authentique, d'après Abi al-Aliya qui a dit, la prière d'Allah, ce sont ses éloges envers son serviteur auprès de ses anges rapprochés. Waqila, il va nous donner un autre sens de salat qui a été mentionné par les gens de science. Ar-Rahma, d'autres ont dit que la salat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont dit que c'est la miséricorde. Et il nous dit le shaykh rahimahullah, was-sawabul awwal. Et ce qui est juste, c'est le premier. C'est-à-dire ce que l'on vient de mentionner précédemment, C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de son serviteur auprès de ses anges rapprochés. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa min al-mala'ika al-istighfar. Et la prière des anges, lorsqu'on dit que les anges prient sur quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'ils implorent le pardon en sa faveur. Wa min al-adamiyyin ad-du'a. Et de la part des humains, c'est l'invocation. Donc nous, lorsqu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on invoque. Lorsque les anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils implorent le pardon en sa faveur. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prie sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ses éloges auprès de ses anges rapprochés. Donc la meilleure manière de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un pilier de la prière après le dernier tashahhud, c'est la prière al-ibrahimiyya, celle que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée. Et c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum lorsqu'ils l'ont interrogé sur la manière de prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lorsque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée, lorsqu'il dit ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Lorsque ce verset a été révélé, les compagnons ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous savons comment te saluer, mais il nous a été ordonné de prier sur toi. Alors comment prions-nous sur toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a enseigné les différentes manières de prier. Il se peut que ce soit passé dans différentes assises, c'est pour cela qu'il y a différentes versions de la prière sur lui qui sont rapportées. Mais dans aucune de ces versions, il n'est rapporté qu'il disait « Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ». Comme certaines personnes le font, lorsqu'ils font la prière, ils disent « Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ». Ceci n'est rapporté dans aucune version des hadiths à ce sujet. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre Sayyid. C'est le Sayyid, le maître des enfants d'Adam. Cependant, il n'est pas rapporté, il ne nous a pas enseigné de mentionner cela lorsque l'on prie sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines personnes, si tu leur dis ça, ils ont une mauvaise pensée. Et ils pensent qu'en lui disant cela, tu ne révères pas assez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est un manque de respect envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire, de ne pas dire Sayyidina lorsqu'il prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une erreur. C'est de l'ignorance de penser ainsi. Justement, notre respect envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il fait que l'on prie sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, de la manière dont il l'a enseigné. Certes, c'est le maître des enfants d'Adam. Cependant, lorsqu'il a appris à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, la manière de prier sur lui, il ne leur a pas dit de dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mais il leur a simplement dit de dire Allahumma salli ala Muhammad. Et c'est important de respecter cela, de faire ces invocations comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enseignées. En effet, dans un hadith, il est rapporté qu'un des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, faisait l'invocation qui est rapportée lorsque l'on se met au lit, qui est de dire « Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyika alladhi arsalt. » J'ai cru en ton livre que tu as descendu et en ton prophète que tu as envoyé. Donc le compagnon, radiyallahu ta'ala anhum, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a enseigné cette invocation, il s'est mis à la répéter afin de la mémoriser. Et à un moment, il a dit, au lieu de dire « wa nabiyika alladhi arsalt », il a dit « wa rasulika alladhi arsalt ». Il a changé le terme « nabi » par « rasul ». Il a dit « messager » au lieu de « prophète ». Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a tapé sur la poitrine et lui a dit « non, dis, et ton prophète que tu as envoyé, wa nabiyika alladhi arsalt ». Est-ce que c'est quelque chose de grave qu'il a dit ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager aussi. Il est prophète et messager. Cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a fait cela afin de le blâmer et de montrer l'importance de prononcer les invocations de la manière dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a enseignées. Donc, lorsqu'on prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on prie de la manière dont il nous a enseigné, en disant « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad » et non pas « Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ». Ceci était donc une petite parenthèse à ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit « Wabarik ala Muhammad ». Donc, il fait allusion à la suite de la prière à l'Ibrahimiyya. « Wama ba'daha ». Il dit donc cela et ce qu'il y a après « Sunanu aqwalin wa af'al ». Ce sont des sunan parmi les paroles et les actes. C'est-à-dire que ce qu'il considère comme un pilier dans la prière après le dernier tashahhud, c'est le fait de dire « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et ce qui vient après, comme dhikr, il considère que ceci fait partie des sunan, c'est-à-dire des choses recommandées qui ne sont ni obligatoires, ni des piliers de la prière. Cependant, il faut savoir que les gens de science ont divergé concernant une invocation qui est prononcée après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du dernier tashahhud. Et cette invocation, c'est celle que l'on appelle la recherche de refuge contre quatre. C'est le fait de dire « Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal. » La majorité des gens de science considèrent que prononcer cette invocation est recommandé. Cependant, certains savants considèrent que cela est obligatoire. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit que Taous rahimahullah, lorsque son fils ne faisait pas cette invocation, c'est-à-dire dans la prière, il lui a ordonné de recommencer la prière. Et ceci nous montre qu'il considérait que le fait de faire cette invocation est obligatoire dans la prière, sinon il ne lui aurait pas ordonné de la recommencer. Il ne faut donc pas négliger le fait de faire cette invocation lors de votre prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, at-taslimatan. Le 14e pilier, ce sont les deux salutations. Et c'est ainsi que tu sors de la prière. Comme on l'a vu dans le hadith, le tahrim de la prière, c'est quoi? C'est le takbir. Lorsque tu dis Allahu Akbar, il y a certaines choses qui deviennent interdites. Le fait de parler, de boire, de manger, de rire, les choses qui sont interdites durant la prière. Wa tahliluha, et son tahlil, ce qui rend licite ces choses, c'est quoi? At-taslim, la salutation. Donc la salutation, c'est lorsque tu dis Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc ceci est la façon la plus courante de faire les salutations lors de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait les salutations, il tournait sa tête à droite, puis il disait Assalamu alaykum wa rahmatullah, puis ensuite il tournait sa tête à gauche et il disait Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il prononçait deux fois la même chose. Et parfois, il rajoutait dans la première salutation wa barakatuh, c'est-à-dire qu'il disait à droite Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à gauche, il disait seulement « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Et parfois également, il disait « Assalamu alaykum wa rahmatullah » à droite. Et à gauche, il se contentait de dire « Assalamu alaykum ». Et parfois même, il prononçait une seule salutation sur la droite. Il tournait à peine sa tête vers la droite et il disait « Assalamu alaykum ». Ceci sont les différentes manières de faire les salutations dans la prière qui sont mentionnées par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala dans son livre sur la description de la prière. Cependant, on voit qu'ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le 14e pilier, c'est quoi? At-taslimatan, les deux salutations. Donc, il considère que les deux salutations, à droite puis à gauche, constituent le 14e pilier de la prière. De ce fait, on comprend qu'il y a en cela une divergence entre les gens de science concernant le fait de faire une seule salutation. Il est donc plus prudent pour le serviteur, dans sa prière obligatoire, d'accomplir les deux salutations sortant ainsi de la divergence. Et les salutations, elles sont accomplies des différentes manières que l'on vient de mentionner. On a donc terminé en ce qui concerne les piliers de la prière. Et on verra dans l'assise de la semaine prochaine, inshallah ta'ala, les obligations de la prière. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا